Il est 10h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'écouter RFI, c'est l'heure du journal. Bonjour Marion Cazeneuve.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous. Une loi contre l'immigration clandestine devient la première loi votée sous le mandat Trump. Elle prévoit la détention automatique de migrants sans papier inculpés ou condamnés pour des délits même mineurs. Des centaines de camions d'aide humanitaire chaque jour à Gaza grâce à la trêve. Pour autant, son acheminement à la population est difficile. Certains camions sont pillés et beaucoup de routes sont détruites dans l'enclave. Et puis au Venezuela, le président contesté Nicolas Maduro déploie des soldats aux frontières pour des exercices de grande ampleur. Aux États-Unis, une première loi adoptée sous le mandat Trump, loi anti-immigration, votée hier par le Congrès. Elle sera ensuite promulguée par le président Donald Trump. Le texte, Guillaume Nodin, prévoit des détentions de migrants en situation irrégulière.
C'est la loi Laken Riley, du nom de cette étudiante de l'État de Géorgie qui en février 2024 avait été assassinée pendant sa course à pied par un migrant vénézuélien illégal. Il a depuis été condamné à la détention à vie, mais il avait déjà été reconnu coupable de vol avant ce meurtre et il avait été relâché. Cette loi oblige donc l'État fédéral à détenir les migrants illégaux accusés de certains crimes. Elle a été adoptée aussi bien au Sénat qu'à la Chambre des représentants avec bien davantage de votes que le suggère la courte majorité républicaine. Cela montre que certains élus démocrates deviennent de plus en plus sensibles au thème de la lutte contre l'immigration clandestine qui a été l'un des principaux moteurs de la victoire de Donald Trump. Tous les démocrates ne sont cependant pas sur cette ligne. Les plus à gauche, comme la représentante de New York Alexandria Ocasio-Cortez, craignent que le texte n'érode davantage l'état de droit. D'autres expliquent que l'application de cette loi va avoir un coût faramineux. Le texte arrive à point nommé pour Donald Trump qui a lancé son opération anti-immigration en fermant la frontière sud et en y envoyant l'armée. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Le nouveau président américain met donc en place une promesse, lutter contre l'immigration. Il a aussi validé l'envoi de 1500 soldats supplémentaires à la frontière mexicaine. Donald Trump vient aussi de nommer Andrew Posner comme ambassadeur des États-Unis pour l'Union européenne. Il était auparavant patron d'une chaîne de fast-food. Marco Rubio, nouveau chef de la diplomatie américaine, fait quant à lui ses premières déclarations. Après un appel avec Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien, il promet un soutien inébranlable à Israël, alors que la trêve entre Israël et le Hamas entre dans son cinquième jour. Malgré le cessez-le-feu, l'armée israélienne continue d'opérer à Gaza et dit avoir tué un membre du djihad islamique. À Gaza, où pendant le cessez-le-feu, l'aide humanitaire continue d'affluer, des centaines de camions entrent chaque jour dans l'enclave, dans un territoire qui manque de tout. L'augmentation de ces livraisons était réclamée par les acteurs humanitaires, mais leur acheminement reste difficile, comme le souligne Marc Lassouaoui, responsable plaidoyer Europe de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens.
Je ne pense pas qu'on puisse dire que les conditions se soient améliorées drastiquement. Une quantité énorme de convois humanitaires étaient attaqués, pillés par des groupes, par des gangs. C'est quelque chose qu'on risque de continuer à voir si l'aide n'arrive pas en quantité suffisante à Gaza. Il faut aussi savoir que le passage des biens humanitaires est aussi entravé par le fait que les routes soient détruites, ce qui rend le passage des camions beaucoup plus difficile.
Est-ce que aujourd'hui vous voyez une forme de retour d'ordre public dans la bande de Gaza ou est-ce qu'il y a encore une absence d'autorité gouvernante ?
Je crois que c'est un petit peu tôt pour ça. Aujourd'hui, on est dans un moment où le cessez-le-feu vient de commencer. Est-ce qu'on va pouvoir acheminer l'aide alimentaire en toute sécurité et efficacité? Je crois que cette question serait mieux posée dans quelques jours ou quelques semaines.
Marc Lassouaoui avec Guilhem Deltey. Une semaine de violence entre guérillas en Colombie. Ces affrontements entre le LN et des dissidents des FARC ont fait une centaine de morts, 32 000 déplacés dans trois régions du pays. Cela fait plusieurs jours que l'armée est déployée, le pays est sous état d'urgence et hier, les autorités ont réactivé les mandats d'arrêt contre des chefs de la guérilla de l'ELN. Dans le pays voisin, le Venezuela, des exercices militaires de grande ampleur sont organisés depuis hier. Ils interviennent peu après le début du nouveau mandat de Nicolas Maduro, dont l'élection lors de la dernière présidentielle est toujours contestée. Ce déploiement de troupes aux frontières rappelle la tension qui règne dans le pays, Alice Campagnol.
Opération bouclier bolivarien en défense de la paix et de la démocratie. Tout un programme démarré hier en fanfare. Des troupes militaires, policières et civiles ont été déployées sur tout le territoire vénézuélien. 150 000 personnes officiellement qui mènent des exercices aux quatre coins du pays. Nicolas Maduro a lancé l'opération.
Si tu veux la paix, construis-la. Si tu veux la paix, défends-la. Si tu veux la paix, préserve-la. Avec la paix, nous avons tout réussi. Avec la paix, nous irons loin.
Le président a parlé de menaces qui pèsent sur le Venezuela et notamment des groupes fascistes, faisant ainsi référence à l'opposition. Il a également évoqué les paramilitaires du voisin colombien, la Colombie avec qui les relations se sont tendues ces derniers mois. Cette opération, organisée chaque année depuis une décennie, a lieu dans un contexte de grande tension. Nicolas Maduro, dont la réélection est contestée, a prêté serment il y a quelques jours, tandis que le candidat qui revendique la victoire à la présidentielle promettait de prendre le pouvoir. Mais c'est bel et bien Nicolas Maduro qui est toujours à la tête du pays et surtout des forces armées. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
En Ukraine, vaste opération policière pour démanteler un trafic illicite d'armes. Plus de 1000 perquisitions sont menées. La police saisit des armes, des munitions qui ont été prises à des soldats russes sur le champ de bataille. RFI 9h06, en temps universel. En Afrique du Sud, on a parlé récemment de cette mine illégale évacuée à Stilfontein, au sud-ouest de Johannesburg, de cette longue opération de police, du sauvetage finalement organisé. 78 corps sans vie avaient ensuite été remontés. L'un des chefs présumés de cet orpaillage illégal s'est évadé dans des conditions encore troubles. Comme beaucoup, il a été arrêté à la sortie de la mine, puis transféré au poste de police. Mais là-bas, aucune trace de lui. Il a quitté la mine, mais n'est jamais arrivé au poste, Valentin Hugues.
Il aurait pu soudoyer des agents de police avec de l'argent ou avec de l'or. C'est ce qu'explique News24, un des principaux médias du pays. Parce que celui qui se fait surnommer Tiger, accusé d'être à la tête d'un vaste réseau de mines illégales, n'a pas pu disparaître comme ça. Après sa sortie de la mine, il a bien été arrêté et interrogé, comme les autres mineurs illégaux. Il est bien monté dans la voiture de police. Jusqu'ici, tout est normal. Seulement, aucune trace de lui au poste. Entre la mine et le commissariat, Tiger s'est tout simplement évaporé. Alors voici la piste privilégiée. La police pourrait être impliquée dans sa fuite. Un haut fonctionnaire se dit embarrassé par cette situation qui, selon lui, nuit gravement à l'image de cette large opération anti-mines illégales et ajoute que les têtes vont tomber quand les agents complices seront identifiés. La porte-parole de la police nous confirme qu'une enquête interne est en cours pour comprendre cette évasion troublante. En attendant, l'homme est toujours introuvable. Il n'a été enregistré dans aucun autre commissariat ni à l'hôpital et de nombreuses forces de police sont mobilisées pour retrouver sa trace. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
En football, une victoire qui fera référence pour le PSG. Elle menait 2-0 hier en Ligue des Champions. Les Parisiens ont renversé le score et Manchester City 4-2. Les Parisiens ne sont toutefois pas sûrs encore de se qualifier pour les huitièmes. Ils ne devront pas perdre, en tout cas la semaine prochaine, à Stuttgart. On finit par du théâtre avec Par les villages, une pièce de Peter Handke mise en scène en ce moment par Sébastien Kérouffi, une pièce réinterprétée à sa manière dans la banlieue parisienne dont il est issu. Un aperçu avec Muriel Mahalouf.
Par les villages raconte l'histoire d'un transfuge qui revient dans son village. Étranger parmi les siens, il les écoute. Sébastien Kérouffi, metteur en scène.
Ce texte-là, je l'ai entendu à l'endroit de ma cité. Ça résonne très fort pour moi, la question des offensés, des exploités, des humiliés.
Aux côtés des acteurs, une centaine de personnes sur scène forment le chœur et représentent le peuple. Ce sont des habitants d'Ivry qui donnent une vraie puissance à la pièce. Reda Kateb joue le rôle de l'écrivain qui revient chez lui.
Grégor, l'écrivain qui n'a plus vraiment accès à cette famille ni accès à cette langue. Donc on lui parle en arabe et il répond en français, comme c'est le cas dans beaucoup de familles aussi, où les dialogues entre les parents et les enfants se font souvent de cette manière-là, pour mille raisons dues à leur histoire.
Sur scène se mélangent les langues algériens, créoles, français. Et si la douleur est palpable et le rapport de classe violent, la pièce ne sombre pas dans le désespoir, grâce à la musique et au rap, vecteur d'espoir.
Regardez le jardin d'Éden et ne vous laissez pas convaincre qu'il n'y a pas de beauté. C'est la beauté créée par nous qui est mouvante.
Et c'est Kazé, la rappeuse, qui clôt la pièce avec sa poésie galvanisatrice.
Nous réveiller le matin et aller nous reposer le soir.
La pièce Par les villages, cette semaine au Théâtre des quartiers d'Ivry, en banlieue parisienne. Il est bientôt 10h10, à Paris 9h10, en temps universel, à suivre sur RFI Priorité Santé avec Caroline Paré.
Un grand merci à vous, Marion Cazanove.